grand merci pour ce début d'émission à Rémi Babiot, qui est notre invité ce soir, puisque nous allons parler piano avec un spécialiste de cette profession. Rémi Babiot, facteur de piano du magasin Blanchard Musique à Saintes. Magasin qui est le magasin des facteurs de piano depuis déjà 3 générations. Alors Rémi Babiot, présentez-nous votre métier.
Bonsoir.
Bonsoir.
Je suis né en 74. Ça fait à peu près 19 ans que je travaille dans cette société où j'accorde des pianos, je répare des pianos, je travaille tout autour du piano, on livre des pianos. Oui.
Au départ, vous avez essentiellement accordé les pianos.
Ben, au départ, il y a une école à faire pour devenir facteur de piano, puisque c'est le nom du métier. Et puis après, l'expérience fait qu'on se déploie dans différentes manières dans ce métier.
Et alors, on va parler de ce métier au travers d'un livre qui vous avait ému et qui va sans doute émouvoir les enfants, les plus jeunes, et faire poser des questions aux parents. C'est ce qui s'est passé pour vous, et on fera le parallèle pendant toute l'émission. Ce livre dont nous parlons ce soir, de M.B. Goffstein, on peut le trouver aux collections Folio Cadet, c'est chez Gallimard. Déby et les pianos. Alors, qui est ce petit Déby ou cette petite?
Ben, Déby est une petite fille qui regarde son grand-père accorder des pianos pour des concerts, qui est donc facteur de piano, et elle le regarde avec admiration, et lui voudrait qu'elle devienne pianiste, et elle veut absolument accorder des pianos.
Donc c'est un petit peu aussi ce qui a été votre choix, mais plus précisément, alors on met beaucoup de temps, j'imagine, à apprendre ce métier.
Oui, l'école de mon époque.
Oui, déjà il y a l'école.
Voilà, se faisait en 3 ans, mais il faut beaucoup d'expérience. Plus il faut en faire beaucoup. Moi, j'accorde entre 600 et 700 pianos par an, et j'en apprends tous les jours.
Oui, et puis alors c'est l'école, j'allais dire, c'est la base quasi minimum. Mais depuis, vous avez fait des stages, des formations différentes pour, exemple.
Oui, ben on se perfectionne auprès des marques, soit auprès de d'autres facteurs de piano pour développer notre activité, pour être de plus en plus pointu, en fait.
Merci. La suite, c'est dans quelques minutes, juste après une courte page de publicité. Il est 19h07. Amis des livres et des belles histoires, bonsoir. La plume dans l'encrier, de retour avec notre invité, Rémi Babiot, facteur de piano à Saint-Magasin Blanchard. Et nous parlons d'un livre, Déby et les pianos, qu'on peut se procurer chez Gallimard, collection Folio Cadet. Rémi, ça tombe bien qu'on parle de ce livre ce soir, puisque demain vous êtes dans une école primaire.
Voilà, une institutrice m'a demandé d'accorder le piano de l'école et de faire un petit exposé sur le piano aux enfants de 8-10 ans, donc complètement dans la tranche du public concerné par le livre, donc ça va être très intéressant.
Ils vont voir le piano s'ouvrir.
Voilà, on va regarder un peu l'anatomie du piano, écouter un petit peu et essayer de comprendre ce qui se passe lorsqu'on appuie sur une touche, pourquoi ça donne un son.
Donc voilà. Finalement leur montrer le mécanisme déjà dans un premier temps.
Voilà, essayer de comprendre un petit peu pas détaillé, mais vraiment de savoir d'où vient le son et comment vient le son.
Bah écoutez, ils vont sans doute s'émerveiller, puis ne manquez pas de leur conseiller Déby et les pianos, le petit livre dont on parle ce soir. Je dis un petit livre, mais c'est un livre qui en quelques pages peut donner des envies qui durent très très longtemps, qui peuvent même provoquer des envies professionnelles, c'est ce qui vous est arrivé.
C'est exactement ça, voilà.
On va en reparler tout à l'heure, parce qu'on fera le parallèle, je le disais, entre le livre, ce qui est écrit, puis votre histoire. Et c'est vraiment très proche. Bon, alors, ce livre, Déby, donc c'est une petite fille. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Elle a un grand-père qui la passionne.
Voilà, elle l'accompagne lors des préparations de piano pour les concerts, et elle est fascinée par le piano, et elle veut apprendre à accorder des pianos. Elle veut accorder des pianos, alors que lui veut qu'elle joue du piano.
Qu'est-ce qui peut passionner un enfant dans ce travail très méticuleux, le silencieux?
Ah, c'est difficile à expliquer. C'est la main de la main du technicien qui rend la beauté du son, ou qui qui contente le pianiste et le public par sa qualité de prestation. Donc
ça c'est pour le pianiste et peut-être pour l'accordeur, celui qui cherche le son juste, et ça donne envie à l'enfant d'attendre ce moment où tac, le son est juste.
Oui, c'est captivant parce qu'on essaye de comprendre, on essaye d'entendre quand on voit. Moi, j'essaye de me rappeler. Et c'est vrai que d'essayer de comprendre ce qui se passe lorsqu'on entend les sons qui changent pour atteindre la justesse, c'est passionnant. C'est vraiment passionnant.
Bon, la main et l'oreille.
Voilà.
La main qui va d'abord de l'accordeur, mais c'est pas le mot exact, du facteur, ouais, qui va donner le son juste, note par note. Comment est-ce qu'on s'y prend?
C'est un découpage de fréquences, enfin, c'est un petit peu mathématique, mais c'est avant tout une recherche sonore que seule l'oreille peut donner. En fait, on rend chaque note du piano belle les unes entre elles. Voilà.
Et finalement, eh bien, ce qui est écrit dans cette histoire, c'est ce qui vous est arrivé en vrai, comme disent les enfants.
Exactement.
Voilà, vous l'avez lu par rapport à la tranche d'âge de cette collection, mais c'est vers l'âge de 14 ans que vous décidez, voilà, à écrire le vrai livre, celui de votre vie.
Mais voilà, mon parrain était accordeur de piano, facteur de piano, avait un petit atelier de réparation. Et c'est vrai qu'au départ, pour avoir la pièce, il m'a proposé de venir l'aider et lui donner un petit coup de main, ce qui était malvoyant, parce qu'autrefois, les accordeurs étaient souvent aveugles. Et je me suis vite pris de passion pour le métier, puisque il offre tout un tas de palettes de possibilités, et puis de l'atelier, voir un piano qui arrive très fatigué, et si on travaille bien, le voir repartir pour une seconde vie, c'était très émouvant.
Alors ça sera dans la deuxième partie de La Plume dans l'Encrier, on va se passionner avec vous. Ça sera juste après les informations. Il est 19h15, vous écoutez Demoiselle.
En Charente-Maritime, écoutez Demoiselle sur 97.8, 102.2 et 107 ou sur demoisellefm.com. Demoiselle, la grande radio.
La Plume dans l'Encrier, deuxième partie. Nous entrons dans le vif du sujet. Comme chaque semaine, un thème à développer en compagnie de notre invité et un livre à découvrir. Notre devise, lire ou écrire, il ne faut pas choisir, il faut juste y prendre du plaisir. Nos applaudissements de ce soir, La Plume dans l'Encrier, à Rémi Babiot, facteur de piano, qui est venu nous parler d'un livre de M.B. Goffstein qui s'appelle « Débit et les pianos ». Un petit livre sympathique comme tout, à lire en famille et puis à proposer aux enfants 10 à 14 ans. On est dans la collection Folio Cadet chez Gallimard. Alors Rémi est notre invité pour nous parler de sa vie qui ressemble beaucoup à celle du livre Débit et les pianos. Il y a un personnage principal, c'est le modèle dans le livre de cette petite fille, qui raconte l'histoire de cette petite fille.
Ben oui, le grand-père qui représente tout ce qui tourne autour du piano, qui fascine. Donc c'est ce qui fascine, qui donne envie de mettre les mains dans le piano ou de comprendre comment ça marche.
Et c'est ce qui vous est arrivé?
Oui, exactement. Moi, j'ai eu la chance donc de pouvoir bricoler des pianos, parce que quand on a 14 ans, on les bricole jusqu'on les répare. Et puis mon parrain avait même un tandem à moteur, ce qui permettait à 14 ans de pouvoir conduire et conduire quelqu'un. Et je l'emmenais faire ses accords et je le regardais faire. Et voilà, ça validait la passion.
Alors comment on s'y prend quand on a 14 ans pour donner la main à un facteur de piano?
Eh bien, on passe les outils, on essaye de comprendre un petit peu les démarches de bricolage, et justement l'intérêt c'est après d'avoir bien compris pour anticiper les gestes de l'accordeur, lui donner les outils avant qu'il le demande, ou placer les outils où ils ont besoin d'être, et puis voilà tout ça.
Alors dans notre livre de ce soir, Débit et les pianos, la petite fille sans doute passe les outils, etc. Et puis elle apprend, bien sûr, en regardant, puis en écoutant, elle apprend le nom des outils.
Voilà, le nom des outils. On apprend aussi à écouter un petit peu ce qui se passe quand on accorde, le changement de sonorité. Donc, on essaye de comprendre ce qui se passe, et je pense que c'est ce qu'elle fait.
Alors c'est ce qu'elle fait, et on va maintenant parler un peu de vos souvenirs personnels, parce que ça raconte, on l'a dit, un peu la même histoire. Les facteurs de piano, du moins, est-ce que à cette époque-là, ils avaient toujours des valises en cuir assez impressionnantes, d'où ils sortaient des clés, des...
Voilà. Voilà. Oui,
alors qu'est-ce qu'on trouve ? On ouvre, allons-y, on ouvre la valise.
Alors ben, on voit des tournevis, des pinces, des... Qu'est-ce qu'il y a comme outil ? Oui, beaucoup de d'outils assez classiques, et puis des outils pour accorder, donc une clé d'accord, ce qu'on appelle des coins, des morceaux de feutre qu'on coince dans les cordes pour éteindre certaines notes.
Les notes.
Oui, parce qu'en fait on accorde deux sons, l'un juste et puis l'autre faux qu'on accorde par rapport au premier qui est juste, donc il faut éteindre certaines cordes pour ne pas les entendre à certains moments.
Alors s'il y a des jeunes gens ou des jeunes filles qui nous écoutent, il faut leur expliquer que si on accorde une corde par rapport à l'autre, c'est qu'une note ne correspond pas forcément à une seule corde.
Voilà, le marteau, lui, frappe trois cordes dans la majeure partie du clavier. Donc, dans un piano, il y a environ 230 cordes, à peu près, qu'il faut forcément tout accorder lorsqu'on accorde un piano. C'est pour ça que ça dure longtemps. Ça peut durer une heure et demie assez facilement.
D'accord. Et l'outil principal ?
Le diapason, pour prendre la première note, le fameux coin en feutre, et puis la clé.
Dans les outils dont on va se servir, en fait, on va avoir besoin autant de la main que de l'oreille. Comment ça se passe ?
Oui. C'est la main pour jouer les notes qu'on veut accorder, mais principalement l'oreille quand même qui doit être bien affûtée.
Affûtée. Naturellement, on a déjà un sens du son juste, mais peut-être on le travaille. Comment est-ce que ça se travaille ?
On a la chance d'avoir en France une très bonne école qui est au Mans, l'ITEM, Institut Technologique Européen des Métiers de la Musique, qui a une pédagogie très intéressante pour nous développer l'oreille. Donc on a tous plus ou moins des facultés à se développer l'oreille, et cette école est là pour ça, et c'est très très intéressant.
Et sous forme d'un travail chanté ou d'un travail uniquement sur les instruments ?
Uniquement sur les instruments, voilà. On a un piano chacun, d'ailleurs, c'est ce qui était déjà très bien il y a à l'époque, pour travailler, et puis on est dans une petite cabine à sonoriser et on cherche. Donc, comme on ne sait pas trop ce qu'on cherche,
uniquement à l'oreille, ou bien on peut s'aider avec, on a des instruments peut-être
maintenant. Non, uniquement à l'oreille. Ce métier peut se faire qu'uniquement à l'oreille. Voilà. Pas d'appareil électronique, rien du tout.
Même pour des vérifications quand on travaille ensuite, quand on est un professionnel ?
Non, c'est vraiment à l'oreille. L'oreille va au-delà de la justesse, donc on peut faire quelque chose de correct peut-être avec un appareil électronique, mais pour une prestation de concert ou pour un accord très fin, l'oreille seule est capable d'aller au-delà de la justesse en fait.
Et ceci pour tout type de piano. Justement, on pourrait peut-être dire un mot sur les différents types de piano.
Les pianos, l'évolution du piano date depuis très longtemps. On a eu le clavecin, le clavicorde, le piano forte, le piano romantique, puis le piano moderne. Donc ce qui est intéressant, c'est justement de pouvoir avoir des repères et entendre, pouvoir travailler encore sur certains très vieux pianos, les remettre en état et avoir aussi en comparatif des pianos modernes très puissants.
Et sur les pianos les plus anciens, qu'est-ce qui rend possible ou à l'inverse totalement impossible toute réparation ?
Ça dépend de l'époque de fabrication. Est-ce que on va dire que il faut que le piano soit d'avant 1850 pour qu'il soit vraiment de collection, et on a toute une tranche de dizaines d'années jusqu'au début du 20e où les pianos évoluaient énormément, où il n'en reste pas grand-chose aujourd'hui. Par contre, les pianos du début 20e à aujourd'hui, selon la qualité de fabrication, ont un potentiel musical intéressant à aller récupérer.
Alors on va écouter un piano pour notre pause musicale. Ce sera un piano accompagné d'une très belle voix.
Oh,
La plume dans l'encrier, en compagnie de Rémi Babiot, facteur de piano de la maison Blanchard Musique à Saintes, qui vient nous parler d'un petit livre superbe qui s'appelle « Déby et les pianos ». La clé de l'accordeur, clé de sol, clé de fa. J'ai dit une bêtise. Non. Expliquez-nous.
Non, la clé, c'est un outil qui prolonge la main et qui tourne la cheville. Donc on tend ou on détend la corde. Donc grâce à cet outil, c'est le lien entre la main et la corde.
D'accord, la cheville étant l'endroit où la corde va se tendre.
Voilà, c'est ça, où la corde est enroulée et on la tend grâce à la clé.
Le livre dont nous parlons, c'est le rapport de Déby, cette petite fille, avec son grand-père. Vous, dans votre histoire véritable, dans votre vrai livre de vie, c'était votre rencontre avec le parrain, voilà. Accordeur de piano. Oui. Mais dans les deux cas, tout ça nous pousse vers le monde du spectacle. Alors, qu'est-ce qui lui arrive à cette petite Déby ?
Ah, mais c'est fascinant, un piano sur scène, un piano préparé pour un concert, tout ce qui tourne autour d'une salle de concert au moment où elle est vide, quand on prépare un piano, c'est une magie assez particulière. On travaille dans l'ombre, mais on fait partie intégrante du spectacle, parce que si on a bien préparé le piano, ça peut faire partie de la qualité d'un spectacle.
Alors là, on est dans votre vraie vie, oui. Le rideau va s'ouvrir, ou il s'est déjà passé, vous avez commencé à travailler de bonne heure pour un concert
Ah oui, ça prend on travaille le matin, on prépare le piano, puis on le transporte, ensuite l'artiste fait sa répétition, et entre la répétition et le concert, on revoit l'accord, et après le concert, on replie le piano, et puis on le ramène chez lui.
Et entre les deux, pour l'entracte, ou s'il y a un petit problème, vous êtes toujours en coulisses?
Toujours là.
Maintenant, on n'écoutera plus jamais un pianiste en concert sans savoir que son facteur est là.
Enfin, c'est une méthode de travail qu'on a, nous, à Saintes. On est trois facteurs passionnés. Et c'est vrai qu'on laisse pas un piano sans son technicien. Il peut se passer plein de choses. Et même pour assurer l'artiste. Donc, c'est important d'avoir quelqu'un sous le coude, toujours.
Donc, vous emmenez, en fait, vos propres pianos sur les scènes.
On a un parc de pianos. Donc, des pianos qui valent très cher, sur lesquels on travaille des très beaux pianos. Et selon les artistes, jazz, classique ou variété, ils ont des exigences. Donc, on se doit d'avoir un choix de piano pour les concerts assez intéressant.
Pour des chanteurs aussi.
Voilà, variété, jazz, classique, vraiment toutes les scènes et toutes les.
Allez,
toutes
un les chanteur. Musiques. Prenons un exemple.
Un chanteur variété, on a fait Higelin, Bruel, des
Alors comment ça se passe avec Monsieur Higelin quand on est son facteur?
C'est des grands professionnels, donc finalement c'est pas très difficile. Ils connaissent leur métier sur le bout des doigts. Si le piano est bien préparé, ils ont pas de.
Ils sont gentils, mignons.
Oh oui, la plupart sont vraiment très sympas. Et c'est assez cocasse de pouvoir quand même discuter avec eux pendant les concerts ou les approcher par le travail.
Quelles peuvent être les exigences particulières pour un concert en public dans des conditions qui sont peut-être un petit peu difficiles? Ça peut être en plein air, ça peut être...
Oui, c'est plutôt après pour le classique qu'il y a des exigences, parce que le piano est vraiment une pièce maîtresse du concert, et un pianiste peut avoir envie d'un piano plus personnalisé pour le concert.
Alors, notre petite Déby, revenons à elle, de Déby et les pianos. Eh bien, elle décide qu'elle veut être accordeur.
Voilà.
Bon, et ben voilà encore une belle histoire qui devient vraie à partir du moment où c'est vous qui la vivez.
Voilà.
Alors, vous décidez d'être accordeur tout de suite.
Oui, sans délai. Moi, la passion est née de mon parrain. Après, lui, lorsque j'ai eu 18 ans, il a arrêté son activité. Et c'est donc mon apprentissage a démarré à ce moment-là dans la maison Blanchard à Saintes. Et donc, ça fait 19 ans que je continue. Mais c'est ce que j'ai voulu faire depuis le début. Et la motivation ne fléchit pas.
Bon, et c'était important de faire une école?
Oui, c'est nécessaire, parce que on...
Merci papa, merci maman.
oui, ça va la faire rire.
Bonjour à Catherine, bonjour à François. Et puis, notre petite Déby, eh bien, elle se retrouve dans une salle de concert, et c'est ça qui lui a donné envie. Elle veut être accordeur de piano, c'est aussi ce que vous avez fait. Et tout ça, c'est finalement pour essayer de jouer juste. Alors, la question est un peu philosophique, mais c'est vrai que si on tient tant à avoir un bel accord sur un piano, c'est que vous avez dit qu'il y avait de très nombreuses cordes, il y a plusieurs manières de jouer des notes ensemble, ce qu'on appelle faire des accords, et que tout ça se complique vite. On a intérêt d'avoir un matériel très précis, bien réglé.
Oui. Oui, il faut absolument qu'il y ait une osmose entre l'artiste et l'instrument, que les deux se sentent en confiance. C'est un petit peu le même binôme qu'un... Bon, c'est rapporté à la voiture, c'est pas forcément intéressant, mais un pilote et un mécanicien sont deux métiers très complémentaires. L'un ne fait pas le travail de l'autre, mais les deux ensemble sont capables de faire de grandes choses. Un pianiste et son technicien, c'est un petit peu le même rapport.
Alors justement, à l'occasion de notre traditionnelle minute de délire des Traits d'Union Lyre, on a fini de lire ce livre et on a envie d'en savoir un peu plus sur les pianos. Il y a une petite minute qui était déjà prête, on a rajouté deux extraits de 30 secondes. Le premier extrait avec un piano.
Un piano Pleyel de 1840, donc piano contemporain à Chopin, donc avec une sonorité très particulière.
Après quoi il faudra patienter pendant la minute de délire. Et juste après, sans transition aucune, un deuxième piano.
Voilà, piano ultra moderne avec des sonorités claires et puissantes.
On en reparle tout de suite, c'est juste après la double minute de délire. Attention, action. Voici donc différents extraits, retenez bien le premier et le dernier, et c'est Rémi qui va nous expliquer les grandes différences entre ces types de pianos.
Voilà, donc le premier c'était un piano dit romantique, donc 1840-1850, celui-là 1840, un piano vraiment avec une sonorité extrêmement romantique, un toucher pour la pianiste assez sommaire, par rapport au deuxième son qui est un piano très grand et très puissant, très clair, pour remplir des salles de concert de plus en plus grandes et avec des mécaniques de plus en plus précises pour le confort du pianiste et la beauté du jeu du pianiste.
Les très grands pianos, enfin ceux qu'on appelle les pianos à queue, les grands formats, ça date de quelle époque?
Il y a toujours eu de très grands pianos. Oui, il y a toujours eu de très grands pianos. On les utilisait pour avoir des salles de plus en plus grandes. Mais les pianos sont devenus de plus en plus puissants dans leur sonorité. Alors c'est pas toujours vrai maintenant, mais on a demandé pour pouvoir faire des concerts en public de plus en plus importants sans sonoriser les instruments.
Et comment peut-on apprendre à jouer du piano?
Il y a plein de manières. On peut apprendre à tous âges et à tout niveau. On peut avoir un professeur particulier en conservatoire, école de musique. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir quand même beaucoup de choix dans les différentes manières d'apprendre à jouer du piano. Et en fonction de ce qu'on a envie, d'avoir un très bon niveau, de ce qu'on a envie de jouer comme œuvre, là aussi, classique, jazz, variété, trouver le bon professeur.
Alors, vous qui travaillez dans un magasin de musique, sans doute, des jeunes gens, des jeunes filles, des enfants viennent écouter, tester. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil aux jeunes gens, aux jeunes filles qui veulent un instrument mais ils savent pas lequel? Est-ce que certaines positions particulières vont convenir à d'autres? Est-ce que pour certains ce sera des instruments avant? Pour comment est-ce qu'on peut choisir? On se lance pas dans un cours pendant un an, acheter un instrument, comment fait-on?
Au conservatoire, il y a ce qu'on a, enfin dans les écoles de musique, l'éveil musical qui est là pour justement essayer de trouver avec les jeunes enfants avec lequel instrument ils ont le plus d'affinité ou voire le plus d'aptitude.
Et puis donc avant de faire vraiment un achat, on peut prendre le temps de louer certains instruments.
Oui, tous les instruments se louent, du piano, saxophone, flûte, tout se loue. C'est vrai que l'achat d'un instrument aujourd'hui, ça représente un coût dans une vie de famille. Donc, investir pour des enfants, c'est pour le peu que ça ne dure pas longtemps, il vaut mieux louer et puis voir ensuite.
Alors, on va revenir un tout petit instant au livre dont nous parlions, Débit et les pianos. Qu'est-ce que vous pourriez nous raconter qui vous a particulièrement touché dans ce livre, en relisant finalement cette histoire par laquelle votre histoire a commencé?
C'est la relation entre le technicien et l'œil de l'enfant qui voit vraiment quelqu'un sortir la mécanique du piano, vraiment voir les marteaux, voir la mécanique et essayer de comprendre pourquoi est-ce que lorsqu'on appuie sur une touche, on arrive à avoir un son et tout ce qu'il y a.
Alors ça va être un petit peu difficile, mais on va se régaler, ça va être un exercice à la radio, on va essayer. On part de l'idée qu'on appuie sur une touche.
Voilà.
Et alors derrière le plan en bois qu'on a devant soi, comment l'appelle-t-on ?
Le panneau, enfin c'est, oui, le meuble du piano.
Voilà, et la touche s'articule et renvoie, au moment où on appuie sur la touche, elle remonte à l'intérieur du mécanisme. Voilà. Allez, on continue,
on continue. Alors
la petite bête va monter.
Elle pousse ce qu'on appelle le bâton d'échappement, qui est une pièce maîtresse qui permet au marteau de ne pas rester collé sur la corde lorsqu'il vient la frapper. Donc ce bâton vient jeter le marteau sur les cordes, donc le marteau se jette et revient à sa place, donc la corde est frappée, elle vibre, et elle transmet cette vibration à ce qu'on appelle la table d'harmonie, qui est une planche de d'épicéa, un très beau bois en fait, et qui va transformer cette vibration en son.
Quand on parle d'un marteau, soyons précis pour ceux qui n'ont jamais ouvert un piano, c'est pas un marteau.
C'est pas non, c'est un marteau, c'est une lamelle de bois entourée de feutre en fait.
Entourée de feutre et qui vient frapper les cordes en s'écartant aussitôt pour que le son puisse naître.
Voilà, les clavicordes n'avaient pas à l'époque ces systèmes-là. Donc c'est justement le Cristofori qui a fait évoluer le pianoforte avec ce système qui a fait en sorte que le marteau soit jeté sur la corde et ne reste pas collé sur la corde et puisse libérer la corde à sa vibration.
Allez, gardez-nous quelques délices encore à nous raconter avant la fin de cette émission. On va passer, après un tout petit jingle, au coin des bouquins. Et dans le coin des bouquins ce soir, nous écouterons Jean Charrier, qui est l'organisateur d'un salon qui va se tenir prochainement et dont nous allons vous dire deux mots. C'est à la Cité médiévale de Pont, en partenariat avec la librairie de la Lettre à la Bulle de Sainte, qui organise son premier salon de la BD dans le prestigieux hôpital des Pèlerins. On écoute à ce propos Jean Charrier, l'organisateur. Dès que le son sera prêt, il est prêt. Jean Charrier.
Les auteurs seront à peu près au nombre de entre 25 et 30, disons, surtout que pour une bande dessinée, il y a souvent un scénariste et puis un dessinateur. Donc ça va faire quand même un petit peu de monde. En début d'après-midi, ça s'est fait l'année dernière, ça a très très bien marché. L'Office du Tourisme, la librairie La Lettre à la Bulle de Saint, l'Office du Tourisme va cacher des œufs dans les jardins de plantes médicinales, va cacher des œufs pour les enfants, ce sera gratuit également, donc les enfants vont pouvoir galoper dans les jardins pour aller récupérer des œufs en chocolat. On découvre un bâtiment qui est du 12e siècle, sympa comme tout, on découvre des auteurs, mais puis en même temps on va chercher des chocolats dans le jardin.
Ce sera donc le salon de la BD à Pont et ce sera dimanche 8 avril. Et puis à Échillé, ce samedi 31 mars, la bibliothèque municipale et l'association Vivre le Livre organisent au foyer municipal, ce sera de 10h à 18h, leur premier marché du livre ancien et d'occasion. À cette occasion, précisément, de nombreuses animations autour du livre seront proposées tout au long de la journée, dont la remise du 9e prix Jeunesse Échillé à 11h45, une rencontre avec Isabelle Flamand pour L'autre femme à 16h, et on rencontrera aussi Jean-Pierre Castagliola pour son livre Le souffle de l'exil, et Gabriel Paquette, auteur, et Sébastien Chébret, illustrateur, pour leur album Abracadachum. Petit jingle. Et il nous reste à remercier Rémi Babiou qui était venu nous parler ce soir de Débit et les pianos, un livre de Goffstein, M.B. Goffstein, chez Gallimard, collection Folio Cadet. À vous la parole pour nous dire encore quelques petits précieux renseignements sur les pianos.
À quel sujet
accorder, ça prend combien de temps?
Faut compter en fonction du travail entre 1h30, 1h15 et 2h, en fonction du travail. Sur un accord de concert, ça peut durer plus de 2h, et puis une heure et demie. En moyenne,
et si on a un piano chez soi, il faut le faire souvent?
La théorie voudrait une fois par an au minimum, mais savoir qu'il y a quand même 18 tonnes de tension dans un piano, donc les changements de température et d'hygrométrie qui se passent dans une année sont souvent suffisants pour déstabiliser l'accord du piano, donc oui, une fois par an c'est assez raisonnable.
Merci à vous Rémi,
merci
à très
vous.
Bientôt j'espère.
À très bientôt j'espère, merci.